Cours de philosophie première par le Père Marie-Dominique Philippe, le 30 mai 2001 à Saint-Jodard.
N'est-ce pas très particulièrement l'expérience de la personne qui pose le problème du rapport de l'un et du multiple? N'est-elle pas la réalité la plus une, la plus complexe, la plus diverse? De fait, on constate surtout dans l'expérience de l'ami la diversité des dimensions de la personne, et pourtant elle est une dans son être, surtout quand elle est fin pour nous. Mais cette unité dépasse l'unité de l'amour, celle du travail, de l'idée. Comment la comprendre? C'est sûr que c'est le grand problème de la phénoménologie. C'est du reste très significatif. La personne vue du côté phénoménologique, c'est l'un. C'est ce qui demeure depuis le berceau où l'enfant n'a pas encore conscience jusqu'à la mort. Et on ferait la courbe de l'unité. Ce serait intéressant à faire. La causalité. C'est quand on est en pleine santé, euphoriquement, donc en pleine montée de la conquête de soi et du monde autour de nous, que l'unité est la plus forte. Chez l'enfant qui est dans la croissance, la diversité est très grande. Il a besoin d'aller se promener, d'aller voir du nouveau. Et puis, quand il décline, la diversité augmente. Et on est pris par la diversité. Vous voyez ? C'est très net, je suis tout à fait d'accord que le problème, comme l'expérience, on avait vu les types d'expériences en philosophie artistique, en philosophie éthique, morale, en philosophie politique. On voit bien le problème de l'unité. Bon. Qu'est-ce qu'il y a de plus particulier? C'est à l'égard de la personne humaine. Je ne suis pas encore en métaphysique. J'ai une expérience de ma personne. Je suis. Bon. Pour le point de vue phénoménologique, si cette expérience d'unité, puisqu'on ne parle pas de l'âme, si cette expérience de l'unité de la personne qui est au fond le sujet qui demeure au-delà de la diversité, au-delà de la croissance, au-delà de la décroissance. Donc, je peux faire cette courbe, cette montée. J'ai un moment dans ma vie où cette unité est très, très forte. Et quand on descend, la diversité augmente et on n'a plus de peine à l'unité. Vous voyez, quand on est malade, la diversité augmente. On a mal aux pieds, on a mal à la tête, on a mal au cœur, on a mal au foie. Alors, on voit la diversité. Un être maladif, il décrit tous ses mots, la multiplicité de ses mots. Il décrit toutes ses tristesses. Quelqu'un qui est en pleine vie, il regarde ce qu'il doit faire. Et c'est un. Et ça, on en a l'expérience, chacun d'entre nous. On a l'expérience, au point de vue philosophique, de cette unité qui se fait grâce à une harmonie. Une harmonie des diverses occupations qu'on a. Et quand il y a une harmonie parfaite, l'unité existe. Quand au contraire, ce n'est pas dans l'harmonie, c'est la division qui commence, les oppositions, on voit la diversité. Au point de vue politique, pris du côté phénoménologique, parce qu'on a l'expérience sur la magie, on est un homme politique. Chacun d'entre vous, vous êtes un citoyen politique. Et avec la profession, vous entrez dans la communauté. Vous avez des droits. Parce que, le droit canon parle des droits de celui qui fait profession d'être pauvre. Alors, je veux bien. Il faut bien respecter la béatitude de la pauvreté qui est au-delà du roi canon. Heureusement, Jésus est au-dessus de la loi et même du droit canon. Parce que quand vous lisez l'évangile avec la lumière du droit canon, c'est un petit peu... Qu'est-ce que fait Jésus ? Ah oui, c'est un citoyen très particulier. Très particulier. En tant que fils du Père, est-ce qu'il est citoyen ? Ah non, il a le droit à l'héritage. C'est bon de temps en temps de se poser le problème comme ça. Et c'est un problème philosophique. Jésus a une unité de vie. Je le regarde en philosophe, hein. Pas en théologien. En théologien, je dirais, c'est pas étonnant, il est fils de Dieu. Non, je le regarde en philosophe. Il a une unité de vie extraordinaire dans la diversité. Quand Jésus s'arrête en face de la femme adultère, on veut le mettre dans la loi. Et Jésus sait bien ça. Il est très, très lucide. C'est un coup monté. Et bien monté. Ils ont passé toute leur nuit à essayer d'attraper une femme en flagrant délit d'adultère. Alors que Jésus, lui, a passé sa nuit en priant avec le Père. Alors, le contexte est visible. Et peut-être que là, plus que jamais, on voit l'unité. Parce que la tension était terriblement forte. Et cette tension, c'était la loi. La loi condamne ces femmes-là. Un point et tout. Peu importe. C'est la femme qu'on condamne. On ne regarde pas les circonstances. C'est le fait. Et Jésus, lui, se met à regarder les circonstances. Le comment. que celui qui est sans péché jette la première pierre. Ça, c'est pas dans la loi. Que celui qui est sans péché jette la première pierre. C'est la miséricorde. C'est pas la loi. Et ils n'avaient pas pensé à ça. Vous voyez la loi. L'application directe de la loi. Et Jésus voit que l'application de la loi rigoureuse, il faudrait être sans péché. Il n'avait jamais pensé à ça. La loi est implacable, sans péché. C'est très beau et c'est une perspective qu'on doit avoir. L'unité de la vie du Christ dans la diversité. Donc, l'unité du citoyen. Elle est double, notre unité au point de vue humain. Comme personne humaine, nous avons une finalité. Qu'est-ce qui fait notre unité? C'est que nous poursuivons notre fin. Et les autres qui nous regardent de l'extérieur ne voient pas cette unité. Ils voient toutes les difficultés et ils s'arrêtent à toutes ces difficultés. L'unité que nous avons dans notre vie, dans notre personne, la personne est finalisée. Elle recherche la vérité, elle recherche l'amour, l'amitié. Alors, cette unité, elle dépasse, elle vient des finalités. Elle unifie tout, elle harmonise tout. Et au point de vue politique, on a une prudence politique. La prudence politique fait attention à la diversité. La prudence personnelle, elle maintient une très grande unité dans la diversité personnelle. La prudence politique, elle est déjà très différente, phénoménologiquement, parce que il y a la miséricorde et la justice. Il y a le bien commun et le bien plus profond de la finalité de la communauté. La communauté comme telle n'a pas de finalité. C'est toujours là la très grande difficulté. C'est que les gens, au point de vue politique, qui regardent le bien commun, coupent la tête de ceux qui voient uniquement la finalité. C'est très curieux de constater ça. L'homme politique regarde le bien commun. Or, le bien commun nivelle, puisqu'il est commun. Il n'y a rien qui nivelle plus que le bien commun. C'est le bien de tout le monde. Puisque c'est le bien de commun, c'est le bien d'aucun. Vous n'êtes jamais complètement... Si vous avez une personnalité, hein, si vous avez une personnalité qui commence à pousser, vous n'êtes jamais satisfait du bien commun. Parce que si vous êtes satisfait du bien commun, ça prouverait que vous n'avez pas de bien personnel. Il y a une dialectique là, très méchante, qui n'est pas commode. Le bien personnel et le bien commun. Et l'homme politique regarde en premier le bien commun. C'est pour pour ça qu'il est assommant. Il ne fait pas attention au bien personnel. Oh, je ne veux pas donner des exemples, mais c'est constant, ça. C'est constant. Alors, est-ce que l'homme politique est vraiment celui qui ne voit que le bien commun et qui raisonne toujours en fonction du bien commun? Alors, celui-là, au bout d'un certain temps, il n'accepte plus le bien personnel. Ah, c'est très net. Le bien personnel est un crime. Ça va contre le bien commun. On oublie que pour que le bien commun existe, il faut qu'il y ait le bien personnel. Parce que le bien commun est second. C'est une finalité seconde, ce n'est pas la finalité première. Pour que la finalité seconde existe, il faut qu'il y ait une finalité première. Il faut des hommes qui aient un amour intense du bien personnel pour que le bien commun existe. Autrement, si tout le monde est dans le bien commun, au bout d'un certain temps, pouf, ça dégringole. Le bien commun a toujours la tentation de dégringoler. On en fait trop. On en fait trop. Ils ne mangent pas assez. Ils sont fatigués. Ils ne dorment pas assez. Le bien commun. Oui. Ça dégringole toujours. Pour que le bien commun ne dégringole pas, il faut, de temps en temps, une flamme du bien personnel qui élève, qui soutient. Bon, c'est très vrai. J'ai cette expérience-là. Je suis tout à fait d'accord qu'au point de vue phénoménologique, la grande expérience, c'est l'unité. Et la phénoménologie n'atteint plus l'être, puisqu'il y a la mise entre parenthèses de l'être. L'upoké. On met entre parenthèses l'être, et qu'est-ce qui vient? C'est là. Alors, ceci me fait penser, avec la parenté, avec les mathématiques. Un esprit mathématique est sensibilisé à l'un et non pas à l'être. Un esprit mathématique toujours voit en premier lieu l'un. C'est toujours l'un, l'indivisible, celui qu'on ne peut pas diviser, et il va toujours. Il est hanté par l'unité. L'unité en soi. L'unité mathématique. L'unité que le mathématicien porte en lui-même. Alors, je suis tout à fait d'accord, et ce serait très intéressant pour, sans doute, comprendre ce qu'il y a d'intéressant, de sui generis, dans la phénoménologie. La phénoménologie m'intéresse à l'égard de l'un, parce que elle est toute polarisée vers l'un de la personne et l'un du bien commun. Et donc, il est utile de la regarder. Et nous avons tous cette expérience de notre unité personnelle, de la conquête que nous faisons de tout ce qui pourrait nous divertir, aller à droite ou à gauche, et de tout ramener à l'unité. Mais la phénoménologie ne regarde pas la finalité. L'un devient la valeur. et se traduit par la valeur. Et c'est très vrai que tant que je ne suis pas unifié dans ma personne, ma valeur personnelle est en jeu. Je risque d'être distrait, à droite ou à gauche. Tandis que, quand j'ai cette unité, je suis très fort. Je dirais que ça manifeste la force de la personne, cette unité. C'est une conquête. Et c'est ma valeur. Et on estimera la valeur personnelle de chacun à cette unité qu'il a, sans regarder sa finalité. Et c'est très vrai, ça. Au-delà des partis politiques, il y a la valeur de l'homme. On me citait l'exemple, je ne dis pas où, de cet homme qui était maire de son village depuis des années et des années, qu'il hésitait de se représenter encore, il s'est représenté en disant « c'est la dernière fois ». Et on me disait « si lui ne passe pas, ce sera immédiatement » étant donné la couleur du village, le communiste qui passera. Vous voyez, la valeur d'un homme devient au-delà des partis politiques. Parce que dans un village qui était en majorité communiste, cet homme, en raison de sa valeur humaine, personnelle, en raison de sa valeur, passait au-delà. C'est quelqu'un qui va régulièrement à la messe tous les jours. Et les communistes votent pour lui. C'est un homme très respectable par rapport à l'Église. Non seulement très respectable, mais officiellement. Et pour moi, c'est très significatif, ça. Et ça fait comprendre que là, il y a quelque chose d'au-dessus des partis politiques, il y a une valeur humaine. Et cette valeur humaine, pour ceux qui ne comprennent pas sa finalité chrétienne, regarde la valeur de l'homme. Pour nous, c'est une conséquence. C'est le fruit de sa finalité. Mais pour les autres, puisque la finalité, ils ne la connaissent pas, c'est sa valeur. Vous voyez ? Vous comprenez où se situe la valeur ? Quand on met entre parenthèses la finalité, qu'on ne voit plus la finalité, la conséquence, le fruit, c'est l'unification de la personne. Et l'unification de la personne lui donne une très grande force et une très grande valeur. Tout cela me fait toucher l'unité. Et cette perspective phénoménologique est très importante. Lorsqu'il s'agit d'unité, elle est très importante, parce que c'est dans la phénoménologie que l'unité est la plus nette. Parce qu'il n'y a pas de finalité, il n'y a que la valeur. Et ce que je vous dis est vrai. Quand vous regardez les écrits inédits de Husserl qui sont à Louvain et qui sont en grosse partie ils ont été édités dans la revue de Louvain, bien, vous voyez que Husserl à la fin de sa vie ne parle plus que de la valeur. Dieu est la valeur suprême. Alors c'est intéressant de voir comment celui qui dit mettre entre parenthèses l'être, le poké, je mets entre parenthèses l'être, la fumagie, mets entre parenthèses l'être, pour ne voir que l'un. Et au terme, l'un personnel, c'est la valeur. Bon, ça fait partie de la topique, ça. Hein. Faudra essayer de réfléchir. Quel est le lien entre l'un, la personne et la valeur? Je constate ça. Je le constate comme une donnée intéressante. Alors, je reprends le problème. Maintenant, je vais entrer dans l'analyse philosophique de l'un. Et je prends le problème le plus simple. Ma philosophie commence toujours par le jugement d'existence. Ceci est. Et l'un consiste à dire ceci est un. Donc je l'ajoute. Mon langage, hein. Mon langage est un signe. Ce n'est pas la réalité, mais c'est un signe de la réalité. Je respecte le langage. Le langage n'est pas la substance de la réalité. Mon langage est intentionnel. Il n'est pas réel. Il n'existe pas. Il n'existe que dans ma pensée. Mon langage montre que l'un s'ajoute à l'être. Donc, signal d'alerte qu'il y a quelque chose qui s'ajoute à l'être. Là. Vous ne pouvez pas ramener entièrement tout au jugement d'existence. Au jugement d'être, ceci est. Vous dites ceci est un. Donc, notons que l'un s'ajoute à l'être. Comment l'un s'ajoute-t-il à l'être? Je réfléchis là-dessus, sur la réalité. Quand je dis « cet homme existe », cet homme est un. Qu'est-ce que j'ajoute de plus? Qu'est-ce qui s'ajoute à l'être? Je vois que l'un qui s'ajoute à l'être n'est pas un accident, quelque chose de secondaire, non? Ce n'est pas quelque chose de secondaire, c'est quelque chose qui prend entièrement l'être. Ah, c'est curieux. Quelqu'un est un, ceci est un, ceci existe, il est un. Alors, je pourrais très bien dire, ceci existe, cette personne existe, elle a une très grande unité de vie. Elle a une très grande unité dans son intelligence, mais dans son affectivité, oh, c'est très différent. Donc, je vois bien que l'un touche plus profondément l'être que la personne. C'est intéressant de voir qu'au point de vue expérience, la personne me mettait en contact avec l'un d'une façon très remarquable. Et la fumologie est là pour le montrer. Mais dès que j'analyse, je vois, je dis, Pierre existe. Mais Pierre, oh, dans sa pensée, c'est magnifique. Il est un, il a une unité parfaite, c'est un homme qui sait ce que c'est que penser. mais son affectivité, quand il commence à être pris par une personne, il voit tout à travers cette personne. Et son affectivité le met dans un état de dispersion, de division. Or, sa personne, c'est son intelligence et sa volonté. Et donc, je vois bien que l'unité peut venir de l'intelligence et ne pas exister du tout du côté de l'affectivité. Ça se rencontre constamment, ça. Je vois ça chez des mathématiciens. Ils sont parfaitement un dans leur système. Ah oui, c'est parfait, ça. Mais au point de vue affectif, c'est désastreux. C'est désastreux. Ils ne savent pas du tout ce que c'est que la fidélité. Ils sont pris par l'unité mathématique. Mais pas du affectif, non. Pas du tout d'unité. Pas du tout de fidélité. On a l'impression que dès qu'ils se rencontrent, quelqu'un qui les intéresse, oh, ça y est, ils courent après. Et ils ne voient pas qu'à ce moment-là, leur vie perd son unité. On a de ces confidences. Ils sont très nets. Les mathématiques, l'unité ne fait pas l'unité de la personne. Elle touche l'être, mais pas la personne. C'est curieux. Et vous pouvez avoir juste l'inverse. Quand il s'agit d'une personne, elle est très unifiée affectivement. Une très grande fidélité dans ses amitiés. Mais dès qu'il s'agit de penser, ou alors... C'est tout à fait la même. Je prends l'exemple de ce bon religieux supérieur me disant la vie contemplative fait l'unité de tous mes religieux. Mais ils peuvent avoir n'importe quelle philosophie. Pas d'unité du côté de l'intelligence. Et j'ai la réflexion inverse, encore d'un abbé, me disant, oh, c'est merveilleux, l'unité doctrinale, mais du côté de la vie, c'est pas comme ça. Ça c'est courant. Et vous voyez bien ça. Donc, vous voyez que l'unité n'est pas premièrement la personne. C'est très vrai que la personne manifeste le plus parfaitement ce que c'est que l'unité. C'est pour ça que l'expérience de l'unité est très autour de la personne. Mais c'est de l'ordre de la manifestation. Ce n'est pas de l'ordre essentiel et premier. L'être, je veux dire, l'un affecte l'être. Il n'est pas un accident, quelque chose qui s'ajoute de l'extérieur. Non, c'est l'un, c'est l'être lui-même qui est un. Et par le fait même, l'un pourra se dire de multiples façons, exactement comme l'être. L'être est divers en intelligence et divers dans la volonté. L'être est divers dans la relation et dans l'opération. L'être est divers dans tous les prédicaments. Polakos, il est dit de diverses façons. Et vous voyez que l'un se dit aussi de diverses façons. Vous avez l'unité dans la qualité. Vous avez l'unité dans la quantité. Vous avez l'unité dans la relation. Vous avez l'unité dans l'action. Vous avez l'unité dans la passion. Ça, c'est très important de voir que, comme l'être se diversifie à travers les 10 prédicaments, l'un se diversifie à travers les 10 prédicaments. Vous avez donc 10 types d'unité. Alors, est-ce que l'un aurait-il une extension plus grande que l'être ? Je vois que l'extension de l'un va avec l'être. Mais est-ce que l'un serait plus vaste que l'être ? Autrement dit, est-ce que Platon a quelque chose de juste dans l'ordre de l'extension ? Est-ce que l'un va plus loin ? Ah, c'est une question très grave et très importante, ça. Parce que ça ferait comprendre comment Platon arrive à dire que l'un est au-dessus de l'être. Ça nous ferait comprendre pourquoi, en phénoménologie, il faut mettre l'être entre parenthèses pour que l'un apparaisse parfaitement. Est-ce que tout ça a un fondement réel ? C'est une question donc extrêmement importante et très difficile. Hein ? Est-ce que l'un a une extension plus grande que l'être ? Je vois que l'un se divise comme l'être, que partout il y a être, il y a un, et la diversité de l'être, de la diversité de l'un est comme celle de l'être. Je me pose alors la question. Est-ce que l'un peut exister sans l'être ? J'aimerais avoir vos réponses, hein, que vous réfléchissiez là-dessus. C'est très important, ça. Parce que ça ferait comprendre Platon, ça ferait comprendre la phénoménologie. L'un m'est donné dans la relation de raison. J'ai l'expérience de l'universel. Tiens, unum ex multa. Ex multis, je veux dire. Unum ad multa. Unum in multa. C'est saint Thomas qui dit ça. Je vous l'ai déjà dit. L'universel est un. Tiens. Il est un, l'universel. Quand vous dites animal, il a une signification une. Il est un. Et il regarde beaucoup. Il vient de beaucoup, il naît de beaucoup. En les rassemblant, je cherche ce qu'il y a de commun dans tous les animaux différents. Je dis animal. Et ça met même l'homme dans cette communauté avec l'animal, avec le petit crapaud. Il a une unité. Évidemment, il a beaucoup évolué, hein. Du crapaud à l'homme, c'est pas mal. Mais c'est animal des deux côtés. Et mon intelligence peut les unir. L'un dans l'universel, est-ce qu'il existe ? Non. Il n'existe pas d'une existence substantielle, puisque c'est une relation. Il n'existe que dans la pensée. L'universel, c'est mon enfant. Mon enfant de ma pensée. C'est le fils de ma pensée. Je n'ai comme fils de ma pensée que l'universel. L'avantage, c'est qu'il ne se dispute jamais avec moi. Il vient entièrement de moi, l'universel. Je pense à l'universel. Et réfléchissez, à quel moment vous avez pensé l'universel ? Quand vous avez eu... Oh, c'est extraordinaire. C'est le fils de ma pensée, l'universel. Donc l'universel, c'est l'un de raison. C'est pas l'un de l'être, c'est l'un de ma pensée. Oh. Donc, l'un a une extension plus grande que l'être. Peut avoir une extension plus grande que l'être. Ça, c'est très important de comprendre ça. Exactement comme la relation. Parmi les prédicaments, il y en a un qui brise avec l'être et qui peut être une relation de raison. Et cette relation de raison, elle est une. Elle a une unité de relation. Et c'est l'universel. L'universel, il est un de raison. C'est une relation de raison. Voyez, cette découverte, toute simple, hein, toute bête, on s'en sert tout le temps de l'universel. Chaque fois que vous parlez, vous utilisez l'universel. Vous n'êtes pas obligé de montrer ça, ça, ça. Voilà ça, Pierre. Non, c'est un homme. Et vous servez d'homme. L'universel est, au point de vue logique, la naissance de la logique. Donc, c'est un... Il est très important. Il est à l'origine de la logique. Et la logique, elle ne regarde pas du tout ce qui existe. La logique, elle regarde ce qui existe dans mon intelligence. C'est pour ça que c'est terrible quand la théologie devient logique. Alors, elle n'est plus de Dieu. Elle quitte la foi et elle est uniquement l'œuvre de la raison. Ça devient une science profane. La parole de Dieu n'est pas universelle. Elle est singulière. Dieu s'adresse toujours à une personne. Le prophète qui parle au nom de Dieu. Et on en fait quelque chose d'universel. Est-ce que la théologie ne fait pas ça ? On part du singulier, de la parole de Dieu, et je transforme cette parole de Dieu par mon intelligence en une science universelle. C'est légitime si je ne perds pas contact avec la foi qui touche le singulier et la parole de Dieu. Mais si je me sépare de la parole de Dieu, ma théologie n'a plus aucun sens. Elle devient logique. C'est extraordinaire, ça. Comme l'un est séduisant pour mon intelligence humaine. Comme l'un est séduisant puisqu'il a le visage de mon fils. Le fruit de mon intelligence. Il a ce visage-là. Il peut regarder l'être réel comme un adversaire. Je passe du singulier à l'universel. Et l'universel a des qualités que le singulier n'a pas. Parce que l'universel, il s'étend à tous. La science a des qualités que la foi n'a pas. La théologie a des qualités que la foi n'a pas. Elle est universelle. Dieu n'est pas universel. C'est l'homme, dans son intelligence. Et il arrive qu'on quitte Dieu pour l'universel. Parce que l'universel est très séduisant. Par l'universel, je peux entrer dans la science, je peux développer la science. Et la science, elle est infinie. Et donc, je peux acquérir l'infini. Tandis Dieu, singulier, et la parole de Dieu, singulière, elle s'adresse à quelqu'un, elle s'adresse à moi. La parole de Dieu, c'est ma parole. J'ai le droit de dire ça. Vous voyez, cette chose curieuse, hein, que l'un peut devenir adversaire de l'être. Est-ce que dans la phénoménologie, il n'y a pas ça ? Est-ce que dans la phénoménologie, je ne me mets pas dans une philosophie qui aura la possibilité de se dresser contre une philosophie réaliste. La philosophie réaliste, elle est toujours liée au jugement d'existence singulier. La phénoménologie a le privilège d'être au-delà et d'être tout de suite dans un universel du vécu. Au point de vue existentiel, elle est le vécu, mais elle met entre parenthèses l'être pour être universel. C'est très curieux ça. Et tout de suite, je suis obligé de le considérer que l'un, il est attaché à l'être, oui, très attaché à l'être. Il se diversifie comme l'être se diversifie, mais que l'un peut se détacher, s'abstraire de l'être. Et j'ai alors, à ce moment-là, l'un comme fruit de ma raison, comme fruit de ma connaissance. Et il me permet de m'évader, de me couper du réalisme, du singulier. Et je peux considérer l'universel en lui-même. Alors, puisque l'un a la possibilité d'avoir une extension plus grande que l'être, je commence à comprendre comment Platon peut mettre l'un au-delà de ce qui est. Ce qui est est toujours singulier, est toujours concret. L'un peut s'élever au-dessus. Et donc, philosophiquement, l'un est au-dessus. Si le point de vue de l'être n'est plus essentiel à ma philosophie, jugement d'existence, l'un domine l'être par son extension. C'est très net. Et je comprends que la phénoménologie peut être de plus en plus elle-même en ayant soin de vivre de l'upoké. Je mets l'être entre parenthèses. Alors la question maintenant, du côté de l'extension, mais du côté de la compréhension, est-ce que là, je ne veux pas tout rattraper. Il y a toujours l'extension et la compréhension. Je peux toujours regarder les deux. Le point de vue de l'extension, ça s'étend. Et l'un est plus étendu. Mais au point de vue de la compréhension, est-ce que l'être n'a pas une compréhension plus profonde que l'un. Et au point de vue philosophique, je dois regarder la signification de l'être et la signification de l'un. La compréhension. Quand je dis Pierre est un. J'essaie de comprendre. Est-ce que la compréhension de l'un est-elle toujours relative à la compréhension de l'être ? Et alors que la compréhension de l'être est pour elle-même, l'être est directement intelligible. L'un n'est intelligible que dans la mesure où il est. Alors, son extension au-delà de l'être, qu'est-ce qu'elle signifie ? S'il est relatif à l'être, a-t-il encore une compréhension par lui-même ? Vous voyez, le problème est très, très important, la compréhension de l'être, de l'un. Quelle est la compréhension de l'un ? Quand vous dites que quelque chose est un, qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous voulez dire que cette réalité n'est pas divisible. Elle est une. Dès qu'elle est divisible, elle n'est plus une, parfaitement. Elle est en potentialité multiple. Et c'est vrai. Une tarte, elle est une. C'est une tarte. Et si vous êtes 10 à la manger, qu'est-ce que vous faites ? Vous la coupez en 10, vous la divisez, Et la division vient actuer ce tout en faisant des parties. Enfin, c'est curieux. Tout de suite, vous arrivez à la participation. Vous participez à la tarte, au tout, quand vous prenez votre partie. Vous êtes un complice. La tarte, elle veut disparaître par les 10 qui vont la manger. Donc vous êtes complice de la disparition de la tarte. Vous êtes participant. C'est bien évident. Si vous ne voulez pas être participant, vous dites « Ah non, j'en prends pas. » Alors vous n'êtes pas participant. Il faut voir le problème de la participation. Je vous ai déjà dit que le problème de la participation était très important. Avec l'un, on retrouve le problème de la participation tout de suite. Avec l'être, on trouve le problème de la causalité tout de suite. La phénoménologie garde la participation et supprime la causalité. Et beaucoup aujourd'hui sont tentés par la philosophie hegélienne qui garde la participation, parce que c'est la philosophie de l'unité. Alors, quelle est la compréhension de l'un ? C'est très important, ça. La compréhension de l'un, c'est la compréhension de quelque chose qui n'est pas divisible, indivisible. Donc, la compréhension de l'un se fait par la négation. On regardera ça la fois prochaine. Il faut bien 8 jours pour digérer ça. Et il y aura la Pentecôte. Il faut demander à l'Esprit Saint de comprendre ce que c'est. C'est très très important. Parce que vous voyez, ça fait tout de suite voir la différence entre une philosophie réaliste et la phénoménologie. La philosophie réaliste et l'hégélianisme. Ça fait comprendre d'où vient la tentation. Il faut voir la tentation. La tentation de l'unité est très très grande dans notre monde d'aujourd'hui. Parce que notre monde est commandé par les mathématiques. On est intelligent si on est matheux. Elle est commandée par les mathématiques. Et donc elle est commandée par l'unité. Et non pas par l'être. Ce n'est pas la métaphysique. Alors, est-ce qu'on peut prouver l'existence de Dieu par l'un ? Vous voyez, toutes ces questions-là touchent cette question, qu'est-ce que c'est que l'un ? Sa compréhension.